formidable. Et alors, voyez bien, quand la Providence est bonne pour nous, nous qui avons médité le sacrement de mariage cet après-midi, quand Jésus dit, il va au bord du puits et il trouve la Samaritaine, la première rencontre de Jésus avec la femme. Et dans toute écriture, à chaque fois qu'il y a une rencontre au bord du puits, c'est une rencontre spontanée. Il y a cinq rencontres au bord du puits dans l'Ancien Testament. De même qu'il y a cinq puits au mystère du sacrement de mariage, de même qu'il y a cinq modalités pour l'union de chair, d'une manière humaine, par le haut. Et Jésus dit à la Samaritaine, j'ai eu cinq maris. Comme c'est curieux, quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Vous savez, les rencontres au bord du puits. La première fois qu'on voit quelqu'un qui tombe amoureux dans l'Ancien Testament, c'est au bord du puits. Jacob tombe amoureux de Rachel. Tombe amoureux. Coup de foudre. Premier coup de foudre, c'est au bord du puits. Rachel fait voir les chameaux. Jacob, Rebecca, c'est au bord du puits. Vous voyez, Rebecca, c'est au bord du puits. D'ailleurs, elle donne beaucoup de chameaux en dot, c'est-à-dire à Isaac pour le mariage. Il descend de son chameau pour rencontrer son épouse. Le chameau, c'est l'orgueil. Hein. Si vous voulez rencontrer l'autre, il faut descendre de l'orgueil et être humble. Voilà, la rencontre d'amour est possible. Mais Jésus, là, et puis il y a toutes ces rencontres au bord du puits. Moïse rencontre sa femme au bord du puits. Pas jamais le pied, c'est aussi dans le livre de l'Exode. C'est toujours au bord du puits, pourquoi? Parce que le puits est profond. Le monde est sec. Et il faut aller dans la profondeur de l'amour pour faire que ce monde soit vivable. Mais de l'amour, d'amitié, c'est l'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au incarné. Et Jésus, là, rencontre, donc vous voyez bien, une femme, il rencontre la femme. C'est ça qui est extraordinaire avec Saint Jean, l'évangéliste, c'est que Saint Jean, autant que vous voyez dans Saint Marc, Jésus est toujours avec les foules, toujours, ou avec les apôtres. C'est l'évangile de Saint Marc, c'est l'évangile de Pierre, c'est l'évangile de l'Église, c'est l'évangile de la communauté, c'est l'évangile du peuple de Dieu. L'évangile de Saint Marc, c'est l'évangile de Saint Jean, lui, c'est une rencontre personnelle. Et tout l'évangile, c'est uniquement des rencontres personnelles. Jésus rencontre Nicodème, Jésus rencontre la Samaritaine, Jésus rencontre Marie à Cana. Enfin, la grande rencontre avec Marie Camouf, la première, la rencontre de Jean-Baptiste, la rencontre, c'est tout des rencontres. L'évangile de Saint-Jean, personnel. Pas tout pareil, l'évangile de Saint-Marc, l'évangile de Saint-Jean. Il rencontre la femme. C'est quand même, c'est tout et ça. Hein? Et Saint-Jean était jeune, alors quand on est jeune, on voit toujours les choses à partir d'une expérience personnelle. Saint-Marc était jeune aussi, Saint-Marc était bien. Mais on sent que c'est un disciple, de Pierre. Alors Pierre dit, je dis la communauté, c'est le pape, ça. La grandeur du pape. Alors, donc, Jésus rencontre cette femme, et cette femme est réduite à la corvée d'eau. Elle a eu cinq maris. Ça, apparemment, ça n'a pas marché, à cinq. Et elle est avec un autre, tellement désespérée, l'amour est échec sur échec. Et elle est avec un type, c'est pas son mari. Hein. C'est pas son mari. Et en plus, c'est une femme qui est importante, on le voit bien, on sent que c'est une femme qui a la noblesse, la grandeur, la générosité, la dédication. Mais l'échec dans l'ordre de l'amour a mis cette femme dans un état de désespoir et en même temps dans un état de mépris. Elle est méprisée. Elle est réduite à la corvée d'eau, à l'esclave. Et donc, on voit que cette femme est complètement désespérée. Elle ne croit plus à l'amour. Elle ne croit plus à l'amour. Elle résiste à la corvée d'eau. Et les premières rencontres avec les hommes, vous savez, qu'est-ce que tu fais là? Oh, les juifs, donne-moi à voir, qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit, elle ne croit plus à l'amour. Et les relisons cet évangile de la rencontre de Jésus avec la femme qui a perdu toute espérance et qui ne croit plus à l'amour. Le cœur de la femme. Comment Jésus va réveiller le cœur de la femme qui croit que c'est fini, que l'amour pour elle n'est plus possible avec l'homme. Jésus réveille le cœur de la femme. Alors on ne va pas reprendre tout l'évangile, vous comprenez? Non. Mais quand même, je voudrais au moins noter la fin. La fin, c'est qu'à partir de ce moment, c'est l'évangile de la pastorale pour réveiller le cœur. La pastorale, la technique pour réveiller le cœur, quelqu'un totalement désespéré. Il n'y a plus aucun horizon. C'est l'adolescente parfaite qui a échoué tous les jours. Elle n'a pas passé la deuxième épreuve. Mais je vous assure que quand on lit ça tranquillement, à une prostituée, on en fait souvent, mes frères aussi font l'expérience, elle pleure, toutes elles pleurent. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai fait, et je n'en rends pas tous les jours. Vous savez, je regardais les prostituées tous les jours, j'en ai pas, dans ma grotte, ou dans une montagne, en général, c'est dans l'or qu'elle traîne. Bon. Mais c'est très très curieux. C'est évangile là, quelqu'un qui livre son corps, qui ne croit plus au mariage, ne croit plus à l'amour, bah, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, l'amour n'existe plus, on n'y croit plus. Alors il ne reste plus qu'une seule chose. C'est le préservatif. C'est la seule solution. Et si le pape n'est pas d'accord, c'est un homicide. Mais où est l'homicide, s'il vous plaît? Jésus, lui, il réveille l'amour dans le cœur de l'homme, l'amour dans le cœur de la femme. Parce que sinon, le monde est invivable. Et comment fait-il que l'amour disparaisse comme ça, d'une manière si radicale, si universelle, que Jésus donne la clé et dit c'est parce qu'on ne suit pas le seul commandement du Père. Et ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que veut le Père. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Alors là, c'est très fort. C'est très extraordinaire que Jésus la Samaritaine. C'est très étonnant. L'adoration en esprit en vérité, qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire que c'est que l'adoration est très élevée? Parce que quand même, c'est tellement important. Vous voyez, il y a l'Esprit Saint a donné 10 grands commandements par la Torah à Moïse. Le Christ a donné 2 commandements. L'amour, c'est que l'amour du prochain dans un seul acte. Et le Père ne donne qu'un seul commandement. Il y a 13 commandements pour le Christ. Et le Père demande de vivre de la grâce, comme dit Saint Jean chapitre 16, 15, que le commandement du Père est vie éternelle. Et ici, à nouveau, le commandement du Père, vie éternelle, la grâce, c'est quoi? C'est d'adorer en état de grâce, vie éternelle, en esprit et en vérité. Comment est-ce qu'on fait pour adorer en esprit, en vérité? C'est le seul commandement du Père. Et donc, il y a dans ce commandement, si on est fatigué par les 10 autres commandements, par les 2 commandements du Christ, qu'on a perdu l'espérance et qu'on pense que c'est plus possible d'aimer ni Dieu ni son prochain. Et quant aux 10 commandements, n'en parlons plus. La tempérance, l'humilité, la religion, ici et là, les 10 commandements, l'honnêteté, c'est plus possible aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Mais oh, est-ce que tu peux vivre dans le monde d'aujourd'hui sans faire quelques mensonges diplomatiques, hein? Bien sûr, on peut, parenthèse. Mais il y en a, je pense que c'est pas possible. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution. c'est respecter l'unique commandement dans lequel tous les autres sont contenus. Adorer en esprit et en vérité. Et voilà ce qu'il dit à la Samaritaine. Il dit ça. Il dit ça à chaque fois que j'adore le Père en esprit et en vérité, en état de grâce. En état de grâce, plénitude de grâce. Vous traduisez comme la pleine de grâce le faisait. Quand on adore en esprit en vérité, c'est plus moi qui adore. Un petit caca qui adore, c'est pas une adoration en esprit en vérité. Je suis un petit caca, moi. Alors, il faut que ce soit comme Marie. Il faut que ce soit Marie, pas de Père Coche, de Saint-Maximilien Coche. Tout entier l'Immaculé, tout à travers moi. Moi, je disparais pour ça, l'Immaculé qui, dans sa plénitude, cet océan de grâce, cet océan de sainteté, cette immensité, cette intensité de tension, de dépendance par rapport à Dieu, adore Dieu par-dessus tout. Et je donne la permission à l'Immaculée, à la vie éternelle, à la pleine de grâce, d'adorer à travers moi, parce que je vais avoir dans le Christ. Elle a eu 5 maris, celui avec lequel elle est, n'est pas son mari, le seul, le 7e, le parfait, c'est le Christ. Dans la foi au Christ, quand j'épouse le Christ par la foi, quand il n'est plus que le Christ me rencontre et le fruit de cette rencontre, c'est qu'il n'y a plus cette plénitude de grâce que vivait l'Immaculée quand elle adorait. Il faut vivre cette plénitude de grâce. À chaque fois qu'on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », il faut savoir que cette plénitude de grâce, elle est pour nous, pour adorer, en esprit, en vérité. Et quand l'Immaculée, par elle, avec elle, comme elle, en elle, entièrement, ni plus ni moins, nous nous tournons vers l'adoration, vers le Père. Pour adorer, vous voyez, nous réalisons le commandement du Père, pour refaire avec elle, comme elle, actuellement, réellement, intentionnellement, intensément, intégralement, continuellement, autant qu'il est possible, ce qu'elle a fait quand elle a rejoint le Père dans une unité totale. Alors le Verbe s'est fait. Quand la mère a rejoint le Père, le Verbe s'est fait. C'est pour ça que nous aimons tellement, nous les chrétiens, c'est l'Évangélus. Pour revivre. Donner à l'Immaculée la possibilité, à travers notre sensibilité, notre foi, notre espérance plénière, notre amour pour Jésus, de vivre cette adoration en esprit et en vérité. Mais voilà, il faut que, je crois que c'est bien aujourd'hui, de mettre le dernier élan du carême de la résurrection dans cette note de l'adoration en esprit et en vérité, le Père. Et comme c'est facile en plus, d'adorer en esprit en vérité. Ce qui est le plus facile, si moi j'essaye d'adorer, si j'existe, mon Dieu est en train de me créer, je donne tout autant que je peux, mais si je suis ratatiné, c'est dur, hein, faire 7 actes d'adoration par jour à la manière d'Aristote, ou à la manière de Plotin. Hein. Aristote, il dit qu'il faut 40 ans pour arriver à faire un acte d'adoration. Plotin. Un peu moins, parce qu'il passe par la voie d'intériorité, mais il faut bien une vingtaine d'années, hein, d'après Porphyre. C'est Plotin qui dit ça. Ben, vous le savez, ben oui, mais est-ce que c'est encore un acte d'adoration? C'est pas certain, ce Plotin. Mais est-ce qu'il y a, voyez, mais avec l'adoration chrétienne, c'est dur. Je souffre, je mets ma souffrance dans la croix de Jésus, et puis j'offre tout à Jésus. Ça, j'adore Jésus en ce sens-là, pour que Jésus fasse le reste. C'est beau, ça, faire ça quand je souffre. Mais c'est pas facile. Quand on est crucifié, quand on souffre, de mettre sa souffrance avec joie dans la souffrance de Jésus. Mais l'adoration de notre vérité, franchement, c'est facile. Et on n'a pas besoin de 40 ans pour l'apprendre. En 15 secondes, on apprend à faire un acte d'adoration en esprit en vérité. Faites une seconde sur le premier mystère du rosaire, la deuxième seconde sur l'autre. C'est à l'échelle de Jacob merveilleux. Faites 15 mystères du rosaire, une seconde pour chacun. Une fois que vous êtes dans l'Assomption avec Marie, ça y est, vous dites, voilà, à ce moment-là, l'Immaculée, lorsqu'elle épouse, dans une seule chair glorieuse, le corps ressuscité du Christ, elle est face au Père. Elle est face au Père, comme le Christ est face au Père. Au bout de 15 secondes, je lui montrerai 15 mystères du rosaire. Je sais que l'Immaculée a travaillé. travers moi, qui est avec le Christ ressuscité, dans l'unité spontanée face au Père. Elle donne le monde entier, le Christ, l'Esprit au Père et elle-même. C'est ce que nous sommes quand nous adorons l'Esprit en vérité. Et on reste suspendu là. Voilà ce que veut le Père. Le Père veut qu'on soit des. Il ne veut pas qu'on soit des gens médiocres. Il ne veut pas qu'on soit des gens parfaits. Non. Parce que si on est des gens parfaits, on ne prendra pas la plénitude de Marie. On dira ma perfection me suffit. Il faut qu'on soit pauvres, pécheurs. Parce que ce moment-là, on préfère que ce soit immaculé. Qu'il fasse tout à travers nous. Et celui qui croit être chrétien, c'est parfait, c'est un menteur. Et j'en sais quelque chose. Nous en savons tous quelque chose. Que nous ne sommes pas parfaits. Alors, c'est bon pour le carême, ça. On n'est pas parfait. Génial! L'Immaculé là, Jésus nous a sauvés. Les 15 mystères, l'adoration de l'Esprit en vérité. Voilà le grand jeûne spirituel par lequel nous nous préparons à recevoir le mystère de la résurrection. On va demander pendant cette messe à Jésus que la Samaritaine aujourd'hui ce soit nous. On commence à croire à nouveau à l'amour infini que Jésus veut mettre dans notre cœur de manière incarnée dès maintenant et de plus en plus.